millions de dollars américains perdus annuellement dans le secteur de l'impôt foncier au Katanga. Le ministre provincial des Finances, qui le dit, accuse le manque de culture fiscale. Nous sommes ce soir à Kalemie, dans le Katanga, visiter la cimenterie d'Interlac de Kadimba, une usine en proie d'énormes difficultés dont nous vous raconterons l'histoire dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi la réhabilitation de la voie d'approvisionnement des populations de Dungu et Faradje en province orientale. Cette œuvre de la MONUSCO vaut plus de 250 000 dollars américains. Bonsoir à tous. Direction la province du Katanga qui perd chaque année environ 15 millions de dollars américains dans le secteur de l'impôt foncier. Déclaration faite ce mardi à Radio Kapi par le ministre provincial des Finances du Katanga. Christian Mwando l'a dit après le lancement ce lundi dans la ville de Lubumbashi de l'opération de recouvrement forcé de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif. Pour lui, il est temps que le Congolais s'habitue à la culture fiscale. Christian Mwando est au micro de Paul Mounanga.
Pour l'impôt foncier, les pertes sont énormes. Si tout le monde devait payer cet impôt normalement, on devait arriver à peu près à 10 à 15 millions de dollars par an pour une province comme le Katanga, et uniquement dans les grandes villes, alors qu'au jour d'aujourd'hui, l'année passée, nous avions à peine réalisé 500 000 dollars. Donc l'écart est énorme et les efforts doivent être faits de notre part pour que nous puissions récupérer cet argent qui a été perdu pendant cette année. Cet impôt va varier entre 1500 francs congolais par an jusqu'à peu près 1 million à 2 millions de francs, selon le quartier, selon aussi la taille de la résidence, selon que c'est un appartement, une petite maison ou selon que c'est une villa, cet impôt varie dans cette fourchette. C'est une occasion aussi de dire aux gens de ne pas avoir peur qu'ils viennent, qu'ils s'acquittent de leur devoir civique.
Parlons toujours de l'impôt, mais cette fois de l'impôt professionnel sur le bénéfice et profit, IBP en sigle. La DGI appelle les contribuables du territoire de Lubero à payer cet impôt pour l'exercice 2013 avant la fin de ce mois de mars. Appel lancé ce lundi au cours d'une matinée fiscale avec les opérateurs économiques locaux. D'après le chef d'antenne de la DGI, Kirumba, cette obligation concerne également les bénéficiaires d'exonération, les entreprises en cessation d'activité et celles estimées avoir subi une perte. Jean-Louis Mbakulihai est au micro de Alice Kakule de la radio communautaire Kanyabayonga.
Aux contribuables exerçant des activités commerciales, artisanales, agricoles ou une profession libérale, qui, conformément à la législation à vigueur, est soutenu de déposer au plus tard le lundi 31 mars 2014 leur déclaration de l'impôt professionnel sur le bénéfice et profit, les contribuables doivent procéder au paiement du solde et souscrire la déclaration sur les bénéfices et profits et le paiement de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises, toute absence ou tout retard dans le paiement de l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits de l'exercice comptable 2013 donnera lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales conformément à la loi.
Avec 4500 tonnes de clinker produits par mois, la cimenterie d'Interlac de Kadimba au nord Katanga est en proie aujourd'hui à d'énormes difficultés. Problèmes d'approvisionnement en énergie électrique et en combustible, vieillissement des machines, concurrence du ciment gris importé, personnel jugé pléthorique par le nouvel employeur. Bref, ce fleuron de l'industrie locale dans les années 50 et après l'indépendance a besoin d'un second souffle aujourd'hui, comme nous l'explique Expedi Mwambamubi.
Les difficultés de la cimenterie Interlac de Kadimba ont surgi vers les années 90. Difficultés liées notamment à l'énergie électrique. Raccordée au réseau de la SNEL, Interlac Kadimba reçoit 1 MW 400 alors que ses besoins vont au-delà. L'énergie électrique, c'est juste pour les machines telles que les broyeuses, les compacteurs, les chargeuses, les grues, etc. Le four à clinker, lui, a besoin de charbon comme combustible. Or, les charbonnages de Makala sont à plus ou moins 70 km de Kalemie. L'acheminement du charbon se fait par train sur 10 km. Puis, c'est le transbordement sur des barges qui doivent naviguer sur le lac Tanganyika jusqu'à Kabimba. Périodiquement, le four de Kabimba est mis à l'arrêt à cause du retard pris dans l'acheminement du charbon. La commercialisation bute également contre une certaine concurrence que les responsables d'Interlac estiment déloyale. La concurrence du ciment importé qui, lui, bénéficie de l'exonération alors que le ciment de Kabimba roule sous des taxes. Confirmation avec le délégué principal Milenge Luango.
Il y a eu l'exonération de ciment étranger. C'est la raison pour laquelle notre ciment apparemment coûte cher par rapport au ciment étranger. Notre hiérarchie a pu demander cette exonération ou renégocier au niveau du gouvernement pour pouvoir réduire quelques taxes.
Le sac de 50 kg de ciment gris produit par Interlac revient à $18 américains. Alors que le ciment gris importé est acheté à $17. Et puis, il y a le rétrécissement des débouchés. Des débouchés qui, au bon vieux temps, allaient jusqu'au Burundi. Le directeur des ventes, Alice Tabaza, confie son amertume au micro de François-Xavier Mibé.
À Kabimba, on a une capacité de 150 tonnes jour de production de clinker. Si vous multipliez par 30 jours, parce qu'il y a des jours d'entretien, donc ça vous fait à peu près 4500 tonnes par mois. On ne s'est pas liquidé, malheureusement.
Kalemi, Exfeli Mwambamoubi, Éco d'économie.
Vous l'avez sûrement compris, la société Interlac est une entreprise de production de ciment gris. Elle comprend deux cimenteries, l'une à Kabimba dans le nord Katanga et la seconde à Katana dans le sud Kivu. Interlac comprend également l'usine de charbon à Makala près de la ville de Kalemi. Exfeli Mwambamoubi nous en dit plus sur cette cimenterie de Kabimba.
La construction de l'usine appelée jadis Ciment Lac a débuté en 1951. L'exploitation, elle, a commencé en 1954 avec des chantiers en termes d'immeubles, ponts et chaussées exécutés à l'époque par le gouvernement colonial. Ce fut une période florissante pour les activités de cette entreprise. Vers les années 90, ses propriétaires belges ont vendu l'usine à la société Malta Forest. Entre-temps, Ciment Lac était rebaptisé Interlac. Mais de grosses difficultés ont surgi vers les années 90. Difficultés liées à l'énergie électrique. Raccordé au réseau de la SNEL, Interlac Kabimba reçoit 1 MW 400 alors que ses besoins vont au-delà. Le four à clinker, lui, a besoin de charbon comme combustible. Or, les charbonnages de Makala sont à plus ou moins 70 km de Kalemi. L'acheminement du charbon se fait par train sur 10 km. Puis, c'est le transbordement sur des barges qui doivent naviguer sur le lac Tanganyika jusqu'à Kabimba. Périodiquement, le four de Kabimba est mis à l'arrêt à cause du retard pris dans l'acheminement du charbon. La commercialisation bute contre une certaine concurrence que les responsables d'Interlac estiment déloyale. La concurrence du ciment importé qui, lui, bénéficie de l'exonération alors que le ciment local coule sous des taxes. Avec une capacité de 150 tonnes par jour de production de clinker, Interlac produit à peu près 4500 tonnes par mois. Or, on assiste depuis quelques années à un rétrécissement des débouchés. Des débouchés qui, au bon vieux temps, allaient jusqu'au Burundi. Depuis bientôt 3 ans, la société Interlac est passée entre les mains d'autres investisseurs, des Allemands cette fois. D'après la délégation syndicale, l'opinion des nouveaux maîtres d'Interlac, c'est que le personnel est pléthorique. Des 220 travailleurs immatriculés au total aujourd'hui, c'est-à-dire cadres, agents de maîtrise et personnel d'exécution réunis, les nouveaux propriétaires s'emploient à ramener ces effectifs à plus ou moins 150. Kalemi, Exfeli Mwambamoubi, Radio Okapi.
En bref, les Nations Unies sont prêtes à soutenir l'exploitation, la production et l'exportation des minerais propres en République démocratique du Congo. Martin Kobler l'a déclaré ce lundi. Le chef de la mission des Nations Unies au Congo s'est exprimé à Goma lors de la tenue de la conférence minière. Il a ajouté qu'il s'agit particulièrement de forger une zone de paix et de stabilité, favoriser le développement du secteur privé et les revenus de l'État et enfin insister sur le développement socio-économique. Au Katanga, des commerçants ont du mal à acheminer des marchandises dans des grands centres urbains de consommation. Les entreprises de transport ont suspendu leurs activités sur le tronçon Kasaji-Dilolo. En outre, des camions transportant des marchandises se sont embourbés depuis plusieurs jours. Une situation qui n'arrange pas les commerçants qui craignent pour leurs marchandises constituées des produits périssables. À la base, le mauvais état de la plupart des routes.
Éco d'économie.
Terminons par la province orientale. La MONUSCO a remis hier aux autorités congolaises un pont reconstruit sur la rivière Dungu-Moké. Il s'agit d'un pont qui relie les territoires de Dungu et de Faradje dans le district du Haut-Uele. Cet ouvrage, qui mesure 18 mètres de long et 4,5 de large, a une capacité de 30 tonnes, ce qui réjouit les opérateurs économiques qui ne savaient plus écouler leurs marchandises d'Elvin Waïsala.
Ce pont s'est effondré en juillet 2013 pendant que gros véhicules surchargés les traversaient. La MONUSCO indique que les travaux consistaient à remplacer toutes les anciennes structures de ce pont. Les usagers expriment leur satisfaction. Dieudonné Moudoula, transporteur du territoire de Faradje.
Nous avons longtemps souffert pour traverser ces ponts. C'est une bénédiction que nous soyons aidés par mon frère. Nous sommes contents de réceptionner un pont bien construit.
Cet ouvrage permet de faciliter les mouvements des populations et des biens entre ces deux territoires. Il facilite aussi les mouvements terrestres des casques bleus de la MONUSCO dans la sécurisation de la zone. Mandla Djouze, directeur de la MONUSCO à Ituri.
Cet axe Dungu-Faradje constitue une voie d'approvisionnement pour les populations. Il la rend accessible jouera certainement un rôle majeur dans la mobilité des troupes dans le cadre du mandat de protection de la population par la MONUSCO.
Le coût global de ces travaux qui ont duré près de 6 mois est de plus de 250 000 dollars américains. Des retours de Faradje, Bounia, d'Elbe Waïsala, Radio Kapi.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Julien Niamouini, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et suivie par vous. Merci.